Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de mars 2024. En recevant les grands romans de Tatiana de René, de Émilie Kerbalek, de Sophie Talmen, de Zoé Brisby, de Pascal Chouffaut et d'autres, même plus insolites, je décide de vous parler de la vulnérabilité et de la fragilité des êtres humains suite à une dépression, une rupture amoureuse ou un accident. Il faut alors agir ou réagir et non subir pour retrouver ses rêves et sa vérité. Et c'est ce qui se passe dans ces romans. Mais avant, je dois vous annoncer la parution, même si elle est brève, d'un texte exceptionnel, Le murmure de Christian Bobin, qui vient de paraître chez Gallimard. C'est son dernier livre, alors que la maladie m'a pris par la main, dit-il, et il ajoute que les poètes meurent au combat, même quand ils meurent dans un lit, celui de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Ils livrent bataille toute leur vie, plaçant sa vie sous une pluie de lettres noires et blanches, même le dernier instant, celui du poète qui meurt juste après avoir achevé son dernier recueil. C'est de toute beauté, raison pour laquelle je vous en parlerai plus longuement en avril. Voilà. Et maintenant, je m'attaque au roman choisi pour célébrer cette animation. Le premier roman s'intitule « Poussière blonde » de Tatiana de René aux éditions Albin Michel, qui revient sur la période de juin 1961, lorsque sera tourné le film « Les Désaxés » avec Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift et le cheval sauvage, les Mustangs. Peut-être que vous l'avez vu, que vous en souvenez, c'était tourné en noir et blanc, mais c'était vraiment formidable. Marilyn Monroe était vraiment très touchante, voilà. Et pour exprimer tout cela dans ce roman, Poussière blonde de Tatiana de René, tout cela et cette époque, Tatiana de René fait le choix d'une jeune héroïne qui s'appelle Pauline, qui avait bien conscience qu'elle n'était qu'un être ordinaire, aspiré dans l'orbite d'une femme qui, elle, n'avait rien d'ordinaire, avec des rêves. Mais être femme de chambre, ce qu'elle est, car il faut bien gagner sa vie et faire vivre sa petite fille Lily, c'est précisément cela. Être femme de chambre, c'est faire une intrusion sans le vouloir dans l'intimité d'autrui. Voir le contenu des corbeilles à papier, remarquer les titres des livres, lire les premières pages, les premières phrases des cartes, des lettres, des petits mots qui traînent, tout était là en pâture. Le mot est bien dit. la vie entière de quelqu'un dissimulée dans une chambre d'hôtel, à Reno, au Nevada. Justement, le destin vole à son secours lorsqu'un matin, Pauline doit, qui est sous l'emprise d'un homme imbu de lui-même, elle est remplaçante, elle est appelée d'urgence pour nettoyer la suite 614 du Mapes Hotel. On découvrira d'ailleurs dans ce roman que ce Mapes Hotel, qui est un palace très haut, le plus haut de la ville, et bien qu'il sera à la fin ou au début détruit. Alors qu'elle pense trouver une chambre vide, une femme apparaît, hagarde, voilà. Et je dirais même dépressive. Et c'est Madame Arthur Miller. Femme d'un écrivain et d'un homme de théâtre. Pauline, qui vient de France, ne le connaît pas. Ni elle, la femme dépressive, qui a besoin de beaucoup, beaucoup de soins pour paraître. Et il s'agit de Marilyn Monroe, que l'on découvre sous un autre jour. Et c'est bien ça qui est formidable dans ce roman « Poussière blonde » de Tatiana de Ronay, qui est passionnée par Marilyn depuis longtemps, et qui nous montre l'envers du décor d'une Marilyn blessée, dépressive, qui a besoin de beaucoup, beaucoup de soins, coiffeur, masseur, tout, voilà. Et justement, Pauline voit ces gens défiler dans la suite, ainsi que Arthur Miller, qui veut reprendre chaque fois un mot ou des mots, le scénario du film. Alors va naître une amitié improbable entre Pauline et Marilyn, qui va pourtant s'établir grâce à la langue française. Parce que Marilyn, dans un ancien film, avait été très amoureuse, vous vous en souvenez, d'Yves Montand. Et il avait parlé en français, donc Marilyn, qui était encore amoureuse d'Yves Montand, même si celui-ci était retourné en France, eh bien, elle est toute heureuse de pouvoir parler en français avec Pauline. Et c'est ce qui va faire que elle veut absolument que Pauline reste à son service. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, petit à peu, on découvre que ce séjour à Reno marque la fin de son mariage avec le célèbre dramaturge et le tournage infernal d'un film à la légende noire, Les Désaxés. La générosité naturelle de Marilyn va permettre à Pauline de retrouver sa vérité, sa liberté, de reprendre des études et de devenir vétérinaire de ses fameux chevaux, ce qui a été pour elle son désir le plus absolu, avec pour décor l'immensité aride du désert du Nevada et ses chevaux sauvages, les Mustangs. Poussière blonde de Tatiana de Ronay raconte avec passion le choc d'une rencontre inoubliable entre deux femmes que seul le hasard de ce roman pouvait réunir. Voilà ce très beau roman de Tatiana de Ronay, Poussière blonde, qui vient de paraître chez, qui est paru chez Albin Michel. Alors, le deuxième livre est très différent, mais il est quand même bien, très bien. Les sentiers de recouvrance. C'est de Émilie Kerbalek, également chez Albin Michel, que je remercie pour m'avoir fait parvenir ce beau roman. Dans une Europe, on est dans le futur, dans une Europe en pleine transition écologique, mais peut-être que ça commence déjà aussi, le portrait poignant et lumineux de deux adolescents invités à conjuguer leur guérison, car ils ont été blessés, avec celle de la Terre. Parce que... On parle de la chaleur, même s'il y a des pluies, mais il y a quand même de la chaleur. Donc, ces deux adolescents invités s'appellent Anastasia et Eden. Ils ne se connaissent pas, mais leurs chemins seront amenés à se croiser. Tout d'abord, on fait connaissance d'Anastasia dite Nas, qui a grandi dans une Espagne, en Aragon, dans une ferme à la Sarsa de Suerta, en bordure de la Sierra de Guara, une Espagne qui subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Après la mort accidentelle de son père, Nas, son père qui était un passionné de la nature et de l'escalade, qu'ils accomplissaient ensemble. C'est lui qui va lui apprendre toutes sortes de choses sur les animaux, les plantes, et l'escalade. Mais il y a un accident et il meurt. Donc elle assiste impuissante au naufrage de sa mère qui se noie dans l'alcool. Alors, suivant un ange, elle décide alors de prendre la route, un des sentiers qui mène à l'île de la Recouvrance, située dans le Morbihan, en Bretagne, en passant par le Pays Basque. C'était le chemin le plus court. Alors elle va faire différentes rencontres. Elle arrive même à un moment où elle est déshydratée, complètement déshydratée, parce qu'elle marche, puis elle a un sac pour dormir à la Belle Étoile, mais il fait chaud, et puis elle n'a plus de réserve d'eau. Donc elle sera secourue quand même par des cavaliers, en particulier un, qui la prend derrière lui sur son cheval, un cavalier qui avait connu son père. Et donc elle va pouvoir aller jusqu'à Linesa, puis Bilbao. Et là, elle va faire une autre rencontre, une femme qui a de l'expérience, qui est peut-être un autre ange, Niuma, qui va lui permettre de continuer la route et d'aller à Pamplune et puis ensuite en France avec sa voiture, parce que elle pouvait prendre le train, mais elle avait une voiture, Niuma, et donc avec sa voiture, donc même si elle est un peu réticente, Nas va pourquoi pas va faire la route avec elle. Et d'ailleurs, par la suite, à l'île de la Recouvrance, on retrouve cette Niuma. Eden, lui, vient des Landes. Il est des Landes. Et il a appris à ses dépens qu'à trop jouer avec le feu, on se brûle. Donc, il doit donc partir. Et laissant derrière eux leur existence brisée, chacun prend en solitaire la route de la Bretagne pour l'île de la Recouvrance, où les attend l'espoir d'une vie meilleure, après tout un apprentissage, la mère, celui de la mère pour Eden, un handicap pour Nas, parce qu'elle va se retrouver handicapée, ne plus pouvoir avancer sur ses jambes. Donc elle devra accepter ce mal et puis surmonter grâce à un cheval. Elle va pouvoir, on va l'asseoir quand même sur un cheval avant de pouvoir revenir par la suite s'occuper de sa ferme vide en Espagne, où elle retrouvera d'ailleurs Eden, qui lui aussi, de l'île de la Recouvrante, viendra sur ses pas, parce qu'il l'avait quand même bien vu et remarqué. C'est vrai, c'est un superbe roman de Émilie Kerbalek, l'une des voix les plus puissantes de cette littérature imaginaire française. Voilà. Et je passe au troisième roman, Les cœurs silencieux. C'est aussi différent, mais très beau, Les cœurs silencieux, de Sophie Talmen, paru chez Albin Michel. Là, je remercie Gilles Paris, qui me l'a fait parvenir. Ce n'est pas un hasard, mais comme une destinée, si Sarah, l'héroïne de ce nouveau roman de Sophie Talmen, a choisi le métier d'infirmière. Car elle passe son temps à s'occuper des autres, jusqu'à s'oublier elle-même, blessée, semble-t-il, par quelque chose que l'on va découvrir peu à peu après. Et quand son beau-père, Pedro, un beau personnage, perd brutalement la parole à la suite d'un AVC, c'est elle, Sarah, qui décide d'être sa voix et de partir à la recherche de ses proches avec lesquels il s'est brouillé depuis de nombreuses années. Le plus souvent par sa faute, son égoïsme, et il voudrait se faire pardonner avant qu'il ne soit trop tard, car il sent bien que le temps le presse. Alors il y a Thomas, qui vit au Portugal, au sud de Lisbonne, et qui est l'un de ses fils, qui ne voit pas d'un bon œil cette intrusion dans sa vie et ne lui réserve pas l'accueil escompté à Sarah qui a fait tout ce voyage venu jusqu'à lui. L'on découvre alors que Sarah et Thomas s'étaient déjà rencontrés ici au bord de la mer. Une vraiment belle tendresse s'exprime entre Sarah et Pedro, qui la considère, cette Sarah, ou l'aime comme sa propre fille. Elle est sa belle-fille, mais il la considère vraiment comme sa propre fille. Et c'est pour ça que Sarah va être sa voix. Belle description aussi dans ce roman de tout l'aspect neurologique pour tenter de permettre à Pedro peu à peu de retrouver une parole. Tout ça est très bien montré. Entre Bretagne et Lisbonne, un roman plein de grâce et de générosité qui célèbre le pouvoir des mots et les vertus, oui, je dis bien, les vertus indispensables de la réconciliation. Et nous sommes invités par ce roman « Les cœurs silencieux » de Sophie Talmen, paru aux éditions Albin Michel, nous sommes invités à ne jamais taire nos sentiments et à laisser parler nos cœurs. Voilà, donc un très beau roman, Nos cœurs. Et je passe à un quatrième livre, La double vie de Dina Miller, écrit par Zoé Brisby et paru chez Albin Michel. Zoé Brisby, je la connaissais parce qu'elle avait écrit un précédent livre, Les mauvaises épouses, que je vous avais présenté, qui a reçu le prix Vaknin en 2023. Je vous l'avais présenté parce qu'elle a l'art, justement, de bien montrer ces vies qui paraissent vraiment ne vous fiez pas voilà aux apparences, qui pourrait croire en voyant cette jeune femme gracile, l'héroïne de ce nouveau roman, La double vie de Dina Miller, qu'elle vient de tuer l'un des plus grands criminels de l'ancienne guerre, de la guerre des nazis. Avec ce nouveau roman, Zoé Brisby nous entraîne dans une histoire terrible, mais qui repose sur des faits historiques. Elle nous ramène en 1961, en pleine guerre froide, lorsque Kennedy lance le programme Mercury pour rivaliser avec l'URSS, point de départ de la conquête spatiale. Nous sommes à Huttsville, en Alabama, qui bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Voilà, vous connaissez la NASA. Donc, on voit le début de la NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District, où vivent les scientifiques et leurs familles, il y a Dina Miller. Ce n'est pas son vrai nom. On découvrira par la suite qu'elle s'appelle Rachel. Mais qu'elle s'installe ici avec sa mission. Faire justice. Alors, pour vivre, elle est bien obligée de travailler. Donc, elle trouve un travail dans un petit restaurant, bar-restaurant, le Haver East Dinner, où elle devient servante pour glaner des informations. Et elle s'est très bien placée, justement, pour glaner ces informations, pour savoir qui est qui et où se trouve la personne qu'elle doit rechercher. Et essayer d'arrêter pour faire justice. Non pas pour supprimer, mais pour faire justice. Alors c'est là où Zoé Brisby montre tout son art, parce que si les jolies maisons aux façades colorées, au gazon immaculé, sont parfaitement entretenues, elle cache pourtant bien des secrets. Et c'est ce que, peu à peu, nous allons découvrir. Car ces brillants chercheurs, comme Von Braun, vous connaissez Von Braun, est-ce que vous savez que dans l'administration du Troisième Reich, il avait le grade de SS Sturmbannführer. Et malgré cela, les États-Unis ont tout fait pour saluer ses services. Il avait fait travailler sur les fameuses fusées pour détruire l'Angleterre, mais ces fusées vont servir pour la NASA, pour la conquête spatiale. Après-guerre, von Braun a même pu repartir en Allemagne pour épouser sa propre cousine, âgée de 16 ans de moins que lui, et la faire venir accompagnée de ses parents aux USA. Ils ont aujourd'hui 3 enfants, tous américains. Voilà. Et il y a eu d'autres scientifiques allemands, médecins ou autres, qui ont choisi cet exil. Certains en Argentine, donc le précédent meurtre de Dina, c'était en Argentine, mais il y a eu au Brésil. Et les services secrets israéliens, le Mossad, ont tenté de tout faire pour les retrouver et les juger, comme le cas de Eichmann l'an dernier. Et la jeune Dina a été formée pour cela, retrouver ces criminels nazis. Dina Miller. « Par la ruse, tu mèneras la guerre », dit la Bible. Elle va donc s'initier à mentir, voler, se battre et tuer. Parvenir à séduire Chérie, la femme du médecin Oscar Tunford, qui fait quand même encore des expériences dans son laboratoire. En fait, c'est la femme, mais elle ne le sait pas, d'Otto van Meeden, qui a été surnommé le chirurgien de Buchenwald, où toute la famille de Dina Miller a disparu. Alors, on parle encore dans ce roman de ségrégation raciste, car le cuisinier du restaurant est noir, il est vraiment très très capable, et il circule, il va de la cuisine au restaurant, un restaurant qui est tenu par Avery, une directrice, une blanche, alerte blanche, qui n'a pas les mots, il y a cette fierté, cette fierté patriotique ne constitue-t-il pas une prison dorée dans laquelle sont enfermées les épouses? On voit toutes ces épouses qui sont fières, soi-disant, de leur mari, sous la contrainte constante des apparences, de jolies canaries au plumage bariolé que les hommes exhibent pour parader. Oui, tout cela est très bien montré dans ce grand roman de Zoé Brisby, avec un bon suspense et des rebondissements imprévus, car vous découvrirez que Dina et Peter, son chef intransigeant, vont s'aimer, ce qui est interdit. Mais justement, la vengeance n'est plus de mise. Et vous verrez pourquoi et comment. Zoé Brisby signe là, avec La double vie de Dina Miller, un roman intense et palpitant sur les apparences, les mensonges de l'histoire et le cœur des femmes. Voilà pourquoi c'est un grand roman. Et on écoute, on fait une pause musicale, et on écoute le Piezo de Gabriel Fauré en mémoire justement de Christian Bobin qui doit là-haut nous écouter. Oui, n'est-ce pas que c'est beau, toutes ces voix innocentes, merveilleuses, magnifiques, qui nous mènent dans l'au-delà, justement, parce que nous avons bien une âme et de la poésie dans le cœur. Alors, le cinquième roman prévu, c'est un très beau style pour mettre en scène trois femmes et une forêt. Le titre, c'est « Traverser les forêts » de Caroline Hinault, paru au Rouergue tout récemment, au Rouergue La Brune, la collection. Et merci de me l'avoir fait parvenir parce que la forêt dont il est question ici, c'est la dernière forêt primaire d'Europe aux confins de la Pologne, un sanctuaire sauvage peuplé d'une grande faune disparue ailleurs. C'est là que on a trois femmes, donc la première, c'est Alma, qui tente de franchir la frontière, qui est ici une zone rouge, gardée par des militaires farouches. La deuxième femme est Vera, journaliste, biélorusse, exilée depuis le printemps, qui vit là parce qu'elle a besoin de faire une pause dans son métier. Elle vit au milieu des arbres et des bêtes. Et puis il y a Nina, la troisième, qui a rêvé que sa beauté lui ouvrirait les portes d'Occident, mais qui remâche ses illusions perdues, occupe avec son fils, son jeune fils, l'ancienne maison forestière de ses parents. Sans qu'elle le sache, la forêt va entremêler le destin de ces trois femmes. Mais comment traverser ce labyrinthe? Quelle direction prendre? C'est ce que vous comprendrez en lisant ce haut roman, La traverser les forêts, de Caroline Hinault. Oui, qui vient de paraître au Rouergue, La Brune. Caroline Hinault s'initie sur les traces de la Divine Comédie de Dante. Je voulais vous faire une courte lecture d'un court poème de cette Divine Comédie prise par cet auteur dans le paradis de la Divine Comédie. Il me semblait qu'un nuage nous couvrait, brillant, épais, dense et poli, comme un diamant frappé par le soleil. Voilà pour cette courte lecture du poème La Divine Comédie de Dante, qui a trois parties, vous savez. C'est un magnifique roman inspiré d'événements ayant eu lieu à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie à l'automne 2021. Voilà. Le sixième roman, c'est un polar noir. La théorie des ondes, un titre un peu bizarre, mais qui est défini dans ce roman, La théorie des ondes, qui arrive comme un souffle, une bourrasque, la théorie des ondes. C'est de Pascal Chouffaut. C'est au Rouergue noir. Son personnage, c'est Catherine Gauthier, qui est ancienne flic, qui a eu des problèmes. Aujourd'hui, elle est rangée, une ancienne flic de la ferroviaire, et qui vit à Chalon-sur-Saône. Ah, ça, c'est vraiment très bien parce que on connaît, c'est pas très loin de nous, Chalon-sur-Saône, et qui mène des enquêtes pour un avocat Pearson. Cette femme qui ne ressent plus de douleur après un grave accident, elle y revient un petit peu, doit mener de nouvelles enquêtes car plusieurs assassinats de jeunes filles sont restés inexpliqués. Et en voici justement une nouvelle de victime découverte dans la rivière. De quoi permettre à Jean-Pierre Renaud, commissaire de la brigade criminelle, de reprendre l'affaire, de se lancer à la poursuite d'un tueur qui a semé trop de malheurs derrière lui. Et tout se déroule en grande partie pendant le célèbre carnaval de Chalon-sur-Saône, avec les personnages typiques. On y reparle aussi de l'entreprise Kodak. Voilà, je me souviens d'y avoir été dans cette ville de Chalon-sur-Saône, visiter avec des amis une grande exposition de photos. Donc l'entreprise Kodak, qui a dû fermer ses portes et donc licencier du personnel, que l'on retrouve dans le roman. Autour du captivant personnage de Catherine Gauthier, Pascal Chouffaut tresse une intrigue tragique où parents endeuillés que l'on va retrouver vont croiser la mémoire d'enfants oubliés, les orphelins de Paris, recueillis dans les colonies de la région au début du XXe siècle. Et puis les petites mortes de la Saône, jaillies d'un conte où des filles se font dévorer, où les mères hurlent leur désarroi, illuminant de leur beauté électrique ce roman coléreux et vengeur. Roman qui fait quand même 426 pages, je vous le dis, parce que vous y passerez vraiment de très très grands moments dans ce roman. Pascal Le Chouffaut, c'est une femme autrice de nombreux scénarios pour la télévision, a publié deux romans, Laura ou le secret des veines de l'âme, et puis chez Michel Lafon et un Nitro, mais c'était déjà un plus ancien. Elle vit en Seine-Saint-Denis. Le septième roman est bizarre ou insolite. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il y aurait toujours sur ce thème de la vulnérabilité, de la fragilité qui arrive parfois. Ici, justement, ce papy Mariol, le personnage principal de ce roman de Benoît Philippon, paru aux éditions Albert Michel, que je remercie aussi parce que j'ai reçu ce roman qui sort de l'ordinaire, justement. Ce papy Mariol, qui est déjà quelque peu âgé, on le voit sur la couverture avec son peignoir, et qui s'échappe d'une maison de retraite. Parce qu'en fait, c'est un tueur à gages, ce qu'il est devenu. Malheureusement, il souffre de la maladie Alzheimer. Heureusement, il est féministe, donc il sera aidé par des femmes. Malgré lui, et il rencontre Mathilde, Mathilde, le deuxième personnage central de ce roman, qui se bourre d'anxiolytique pour oublier qu'elle a été victime de revanche porn et qu'elle a été jetée en pâture sur les réseaux sociaux qui l'ont donc considérée comme une putain, ce qu'elle n'est pas. Elle a été séduite par un homme qui semblait bien sous tout rapport et qui l'a entraînée dans une rencontre amoureuse, sexuelle, mais qui a eu, à un moment donné, qui a eu envie de faire un film d'elle. Et c'est ce film qui a été porté sur les écrans. Elle veut donc en finir, à moins, parce que, alors qu'elle veut se jeter d'un pont, eh bien, papy Mariol va passe par là et va la secourir. Donc, peut-être qu'elle va comprendre que lui, il perd la tête. Il ne sait plus vraiment ce qu'il doit faire. Il a encore une mission, peut-être un meurtre à accomplir, à conclure. Donc sorti de son EHPAD où il était enfermé, et tous les trois, parce que il y a aussi, il a pu sortir et retourner chez lui, retrouver différentes choses, dont Madame Chouchon qui était là à l'attendre, une truie très attachante. Ce n'est pas un chien, mais c'est une, ni un chat, mais c'est une truie attachante qu'il a retrouvée en s'enfuyant de l'EHPAD. Et c'est tous les trois, ils vont faire équipe, et tous les trois pourraient tenter de retrouver la mémoire. En l'aidant à retrouver la mémoire, Mathilde pourra se payer une revanche en or. Et ce bien, ce qu'il viendra, je vous laisse découvrir comment les choses se passeront. Benoît Philippon nous embarque avec cette aventure pleine de majesté, il faut le reconnaître. Il y a de la classe. Nous entraîne dans un trip fantasque, drôle et bouillonnant. Avec une dernière rencontre mémorable, celle de Marion. Vous saurez alors qui était cette Marion, qui était cette personne recherchée par papy Mariol depuis longtemps. Voilà pour le septième roman. Et j'ai encore peut-être, voilà, un dernier livre qui nous entraîne sur une île du Japon. Une île unique au monde, l'île de Teshima. Teshima, est-ce que vous savez qui est cette île de Teshima ? Eh bien, c'est l'île, pas pour ce roman, c'est l'île des battements de cœur, de Laura Imai Messina, qui vient de paraître chez Albin Michel. Je remercie Gilles Paris qui me l'a fait parvenir. Traduit de l'italien, il faut bien le dire, les autres étaient en langue française, mais celui-ci est traduit de l'italien par Marianne Faux-Robert. Alors le sujet, c'est que à la mort de sa mère, donc la mort de quelqu'un, donc il est bien dans la thématique, une séparation, une mort. À la mort de sa mère, Shuichi, le personnage central, la quarantaine revient sur les lieux de son enfance. Lui qui s'attendait à être seul croise le chemin d'un jeune garçon au comportement énigmatique qui semble avoir connu sa mère. Peu à peu, une relation se tisse entre cet homme, l'homme et l'enfant. Et donc, ce grand roman, L'île des battements de cœur, ce grand roman est le récit d'une amitié réparatrice. Ce roman évoque avec délicatesse le deuil, les souvenirs et la nécessité de vivre le présent et non donc pas dans le passé. Parce que dans cette île de Teshima, où sont conservés les enregistrements des pulsions cardiaques de dizaines de milliers de personnes vivantes ou disparues, ce sont les fameuses archives du cœur de l'artiste Christian Boltanski. Voilà, voilà, je vous aurais tout dit, en vous disant cela. C'est vrai que dans ce grand roman, L'île des battements de cœur, traduit de l'italien par Marianne Faurobert, Laura Imai Messina livre une des clés essentielles du bonheur, faire la paix avec son passé pour oser aimer à nouveau. Voilà, je vais m'arrêter sur ce 8e roman qui vous permettra d'accéder à un univers particulier, L'île des battements de cœur, de Laura Imai Messina, donc un auteur italien, dont je vous ai parlé de beaucoup de grands romans, et puis de la mort du dernier livre de Christian Bobin, Le Murmure, qui vient de paraître chez Gallimard. Je vous en parlerai plus en détail. Commencez par lui, chez lui, au Creusot, en juillet 2022, poursuivi sur son lit d'hôpital durant les 2 mois précédant sa mort, le 23 novembre 2022. Le murmure appartient à ces œuvres extrêmes, écrites dans des conditions extrêmes. Dans ce livre ultime, le plus humain des poètes se révèle être aussi le plus héroïque. À l'hôpital, celui dont le rire explosif sonnait comme un défi réalisé à la lettre, cette parole de Rimbaud, « Je suis de la race qui chantait dans le supplice ». Le murmure est la trace d'une course entre l'amour et la mort. Oui, il est dédicacé à Lydie. À la fin, c'est l'amour qui gagne, faisant de ce chant un sommet d'humanité. Le destin qui s'achève sur une telle victoire ne s'arrête pas là, il commence, oui, et on peut le dire, je m'arrête sur ces paroles. Voilà, à bientôt, au mois prochain.